Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 19h30, temps universel. Nous sommes vendredi 26 mai 2017 au sommaire. L'imam d'Al-Azhar condamne l'attaque contre les coptes chrétiens en Égypte qui a fait 26 morts.
Le régime, le gouvernement, le président même, il refuse de pas d'évoquer un échec du ministère de l'Intérieur ou des services de sécurité.
Violents affrontements entre factions rivales dans la capitale libyenne Tripoli. Un proche de Guillaume seront entendus par la gendarmerie dans le cadre d'une affaire de cache d'armes découverte à Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ouverture d'un sommet de deux jours du G7 en Sicile, le terrorisme, le commerce et le changement climatique au menu des discussions. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En Égypte, au moins 26 coptes ont été tués ce vendredi par des hommes armés et masqués alors qu'ils se rendaient en bus dans un monastère situé à quelques 200 km au sud du Caire. Les précisions de Tatiana Mosso.
Selon le ministère égyptien de l'Intérieur, des hommes masqués à bord de trois pick-up ont criblé de balles le bus qui se rendait au monastère de Saint-Samuel dans la province de Minya. Les assaillants ont ouvert le feu à l'arme automatique et ont pris la fuite après le carnage, rapporte Essam el-Bedawi, gouverneur de la province. Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite basée au Caire, a condamné cette attaque qui a eu lieu à la veille du début du Ramadan. Le grand imam Ahmed Al-Tayeb l'a qualifiée d'inacceptable et affirmé qu'elle visait à déstabiliser le pays. Depuis 6 mois, le groupe État islamique a revendiqué des attaques contre les Coptes, dont des attentats suicides contre 2 églises qui ont fait 45 morts début avril au nord du Caire. Une autre attaque suicide contre une église copte en plein cœur de la capitale a fait 29 morts en décembre dernier. Après la double attaque du jour des rameaux contre cette minorité religieuse, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi avait déclaré l'état d'urgence pour 3 mois.
Tatiana Mosso, merci. Nous y reviendrons d'ailleurs dans la partie magazine à 19h45 en temps universel. De violents combats ont eu lieu aujourd'hui à Tripoli en Libye opposant des groupes armés rivaux. La capitale libyenne a été secouée par des explosions et des tirs d'artillerie. Au moins 28 personnes ont été tuées d'après un dernier bilan. Les détails avec Anastasie Toudiech.
Les combats ont commencé à l'aube dans les quartiers d'Abou Slim, Adba et Salaheddin dans le sud de Tripoli. Des chars et armes lourdes ont été déployés au milieu de quartiers résidentiels. Des forces loyales au gouvernement d'Union nationale et des groupes rivaux se sont affrontés. Les combats ont commencé autour d'un complexe d'une dizaine de villas luxueuses qui servait de quartier général à des milices fidèles à l'ancien chef d'un gouvernement non reconnu, Khalifa Gweil, écarté du pouvoir après la formation du GNA. Le responsable d'un hôpital à Tripoli a fait état d'un bilan préliminaire de 5 morts et de plusieurs blessés, dont des civils. Le ministère de la Santé libyen a décrété l'état d'alerte et tout le personnel médical doit se rendre dans les hôpitaux. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, Tripoli est sous la coupe de dizaines de milices.
Les suites de la dernière mutinerie en Côte d'Ivoire, le chef du protocole de Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien, était ce matin devant les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Souleymane Karamaté, dit Soultoussoul, a été entendu sur les armes découvertes à son domicile en pleine mutinerie. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tonkara.
L'audition de Souleymane Karamaté dit Soultoussoul par les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie a duré 2h20 au cours desquelles le chef du protocole de Guillaume Soro s'est expliqué sur les armes découvertes dans l'un de ses domiciles de Bouaké en pleine mutinerie. Touré Moussa est directeur à la communication de l'Assemblée nationale. Il était aux côtés de Souleymane Karamaté pour cette audition.
Des questions lui ont été posées sur cette affaire de caisses d'armes qui ont été trouvées à son domicile. On peut dire que l'atmosphère était assez courtoise. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que, un, il n'est pas l'acquéreur de ses armes, il n'est pas le propriétaire de ses armes. Donc, ils se sont entendus pour continuer l'audition le lundi à 10h.
Lors de la mutinerie des 12, 13, 14 et 15 mai dernier à Bouaké, des soldats mécontents se seraient renforcés en armes et munitions en s'approvisionnant dans une présumée cache d'armes dans l'un des domiciles de Souleymane Karamaté. Comment ces armes se sont-elles retrouvées là et à qui appartiennent-elles? L'enquête ouverte permettra peut-être de répondre à ces interrogations. Mais d'ores et déjà, certains proches du chef du Parlement ivoirien évoquent la piste du complot. Pour eux, cette affaire n'est rien d'autre qu'une cabale qui vise leur chef, Guillaume Soro, potentiel candidat à la présidentielle de 2020. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Toujours en Côte d'Ivoire, la police a arrêté à Boaké le porte-parole des ex-rebelles démobilisés réclamant des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé la Côte d'Ivoire ces dernières semaines. On reste en Côte d'Ivoire où au moins 7 personnes sont mortes depuis mercredi suite à des effondrements de murs provoqués par des pluies diluviennes dans des bidonvilles à Abidjan. Plusieurs quartiers d'Abidjan sont inondés, des dizaines de personnes ont été évacuées de leurs maisons. En 2016, les inondations ont coûté la vie à 16 personnes et en 2014, 39 personnes avaient perdu la vie. Au Niger, le procès de l'opposant et ex-député nigérien Amadou Djibo Ali, accusé de complot visant à renverser le président Mahamadou Issoufou, se poursuivra lundi. Une première audience avait eu lieu mardi et une décision a été attendue aujourd'hui. M. Ali est accusé d'avoir appelé au renversement du président nigérien lors d'une intervention le 12 mai devant des partisans de l'opposant Ama Amadou. En République démocratique du Congo, un député d'opposition donne un bilan très lourd des affrontements dans le Kasaï entre les forces de sécurité et la milice Kamwina Sapu. Deli Sesonga, élu de Luisa dans le Kasaï central, a estimé que plus de 3000 personnes sont mortes depuis le début de l'année. Il a dit se fonder sur une compilation non exhaustive des décomptes faits par son parti politique dans les deux provinces, mais l'ONU, elle, évoque un bilan de 400 morts. Un journaliste éthiopien a été condamné ce vendredi à 18 mois de prison pour avoir communiqué avec un dissident à l'issue d'un procès vu par la société civile comme une attaque à la liberté de presse. Getacha Oshifareo, rédacteur en chef d'un journal éthiopien en ligne, était en détention depuis son arrestation en décembre 2015. Il pourrait donc finir de purger sa peine dans quelques jours. Hier, l'opposant Yonatan Tesfaye a été condamné à 6 ans et demi de prison pour incitation au terrorisme pour des commentaires postés sur son compte Facebook.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G7 ont commencé un sommet de 2 jours à Taormina, en Sicile. Ils sont appelés à faire un front uni contre le terrorisme à défaut de s'entendre sur le changement climatique ou le commerce international. Les précisions de John Linden.
Ce ne sera pas une discussion facile, avait prévenu le chef du gouvernement italien dont le pays préside actuellement le G7. L'Italie a promis de tout faire pour rapprocher les points de vue. Après les attentats de Manchester, les pays du G7 devraient réaffirmer leur engagement ferme dans la lutte contre le terrorisme. Le réchauffement climatique, sujet sur lequel le président américain Donald Trump refuse toujours de se prononcer, y compris sur l'accord de Paris, sera le plus compliqué. L'autre sujet sensible porte sur le commerce international et le rôle d'arbitre de l'OMC, où les États-Unis veulent réviser leur position. Gary Cohen, conseiller économique du président Trump, a dit s'attendre à une discussion ferme sur le sujet. « Nous allons continuer à nous battre pour ce que nous pensons juste, c'est-à-dire un commerce libre, ouvert, mais équilibré », a-t-il assuré devant la presse.
Merci John Linden. La bombe utilisée dans l'attentat de Manchester était un engin artisanal puissant équipé d'un détonateur sophistiqué que le jeune kamikaze Salman Abedi n'a pas conçu tout seul selon des experts. Selon le New York Times, le détonateur contenait un petit circuit imprimé et non pas un simple interrupteur comme c'est souvent le cas, suggérant un retardateur, voire même un récepteur pour un déclenchement à distance ou une combinaison des deux. L'attentat a fait 22 morts et 60 de blessés. Un étudiant britannique de 20 ans a été condamné à 15 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'avoir posé un engin explosif dans le métro londonien et qui a été désamorcé au dernier moment. Cette condamnation tombe 4 jours après l'attentat de Manchester. Damon Smith, qui n'avait aucun lien avec le djihadisme, a assemblé une bombe chez lui avec un réveil acheté dans un supermarché après avoir consulté sur Internet un article d'Al-Qaïda sur la fabrication de bombes artisanales. L'étudiant avait affirmé avoir voulu faire un canular. En Turquie, une commission parlementaire chargée d'enquêter sur le coup d'État avorté du 15 juillet a rendu public son rapport, imputant sans surprise la responsabilité aux partisans du prédicateur Fatullah Gulen. Mais le texte pointe aussi des défaillances des services de renseignement. M. Gulen dément toute implication dans la tentative de coup d'État. Et puis, près d'un milliard et demi de musulmans dans le monde entament demain le mois sacré de jeûne et de prière du Ramadan qui commémore la révélation divine reçue par le prophète Mohammed. Le Ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam et représente pour les musulmans un mois de piété, de charité et de frugalité. Bon Ramadan à tous. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco avec Jacques Aristide.
C'est finalement devenu une réalité. La Guinée équatoriale, troisième producteur pétrolier d'Afrique, est devenue officiellement membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Sa demande d'adhésion, faite en janvier dernier et soutenue par l'Arabie Saoudite, a été acceptée hier lors d'une réunion au siège de l'OPEP à Vienne. La Guinée équatoriale devient ainsi le 14e membre du cartel et 6e d'Afrique. En retour à la demande de Riyad, Malabo va participer aux baisses de production de pétrole pour peser sur les prix. La Côte d'Ivoire entend créer des fonds d'investissement pour le développement du tourisme en vue de faire de ce secteur le troisième pôle économique du pays. Le ministre du Tourisme, Siyandou Fofana, a ainsi reçu une délégation d'experts du groupe Atijari Wafa Investment Bank, connu notamment pour avoir investi massivement dans des projets touristiques et hôteliers au Maroc. Le Rwanda a obtenu, après le feu vert de la Banque mondiale, un prêt de 81 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour financer la phase rwandaise du programme de transport du lac Victoria qui couvre également la Tanzanie et l'Ouganda. Le projet vise à améliorer la sécurité et circulation des personnes, des biens et services le long de ce corridor régional.
Présent la page des sports avec vous, Bagassi Koura, dans ce studio. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane Diab, bonsoir à tous.
Alors, on démarre par la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Oui, la Guinée qui a pris une raclée 5-0 face à l'Argentine ce vendredi. La Guinée est donc éliminée, n'en déplaise à Giorgio Leonardo Sagno. L'Angleterre a, elle, battu la Corée 1-0, défaite 1-0 du Mexique contre le Venezuela dans le groupe B. Victoire aussi de l'Allemagne sur le Vanuatu, 3-2 dans le même groupe. Après des débuts en fanfare contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a chuté hier contre les États-Unis. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire après la demi-heure de jeu.
Et un résultat en amical sur le continent hier.
Oui, c'était entre le Bénin et le Ghana à Accra, préparatif pour le CHAN 2018. Le Ghana et le Bénin qui se sont séparés sur le score d'un but partout.
En football, toujours, l'ailier Wilfried Zaha a prolongé de 5 ans son contrat, le Lyon à Crystal Palace.
Et c'est en Angleterre, l'international ivoirien, âgé de 24 ans, avait été transféré de Palace à Manchester United en 2013. Avant de revenir dans son club formateur, 2 ans plus tard, il a marqué 34 buts en 258 matchs avec l'équipe londonienne. La prolongation de Zaha intervient 2 jours après le départ pour des raisons familiales de l'entraîneur Sam Allardyce, arrivé à la mi-saison.
Luis Suarez incertain avec l'Uruguay.
Oui, l'attaquant uruguayen blessé à l'entraînement jeudi avec son club du FC Barcelone en Espagne devrait manquer un rendez-vous, les rendez-vous amicaux de l'Uruguay contre l'Irlande et surtout contre l'Italie en début juin.
Enfin, la NBA, Cleveland retrouve Golden State.
Oui, le champion titre a décroché jeudi son billet pour sa 3e finale d'affilée contre Golden State, grâce à sa superstar LeBron James qui a inscrit une nouvelle page de sa légende avec une 7e finale de suite. Les Cavaliers n'ont laissé aucune chance aux Celtics, humiliés dans leur salle 135 à 102 après la première période. Ce match numéro 5 de la finale de Conférence Est était déjà décidé avec 20 points d'avance en faveur de Cleveland.
Merci Bagassi et bon week-end.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahman Dia au micro. À présent, les dossiers du jour. La minorité copte de nouveau endeuillée en Égypte à la suite de l'attaque ce vendredi par la branche locale du groupe État islamique dans bus se rendant du Caire en monastère de la province de Minya. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint dans la capitale égyptienne notre confrère Chérif Albert.
Jusqu'à présent, il y a deux décomptes. Il y a officiellement ces 26 morts. L'Église parle de 35 victimes.
Ces personnes se rendaient au monastère de Saint-Michel. À quelle occasion ?
En fait, il n'y a pas d'occasion précise parce que les églises en Égypte, ils font ce genre d'activités, des excursions, des visites de monastères régulièrement. C'est juste peut-être parce que les enfants viennent de prendre leurs vacances. Donc c'est une excursion comme à l'école.
Cela fait plusieurs mois que le groupe État islamique s'en prend à la communauté copte en Égypte. Est-ce à dire que les mesures de protection à leur faveur ont échoué ?
Oui, ça c'est évident, mais jusqu'à présent, le gouvernement, le président même, il refuse d'évoquer un échec du ministère de l'Intérieur ou des services de sécurité. Ils essayent de donner un os à mordre aux médias pour parler, par exemple, du discours islamiste, pour attaquer telle ou telle institution, tel ou tel groupe. Donc, ils veulent divertir l'attention vers d'autres sujets. Ils parlent de tout, sauf de la performance des services de sécurité qui sont bien entendu consacrés à pourchasser et poursuivre les opposants. Ils n'ont pas la priorité de protéger les citoyens en échéance sur le camp.
Le grand imam de l'université islamique Al-Azhar du Caire a condamné l'attaque de ce vendredi. Quelle est la portée de cette condamnation ?
C'est une condamnation de routine, comme le font tous les responsables politiques ou religieux. Ça n'a pas vraiment un sens spécial.
Quel avenir pour la minorité copte en Égypte dans ces conditions ?
Jusqu'à présent, c'est vraiment la panique, c'est la colère. Mais il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas vraiment un plan sérieux qui vise à renforcer la protection des Coptes ou à prendre des mesures pour que ça ne se reproduise pas. Et les gens ont fini par se demander est-ce que le régime lui-même ne profite pas de tels attentats terroristes pour légitimer sa présence et son existence.
Comment les Coptes vivent-ils quotidiennement face à cette situation ?
Il n'y a pas de danger dans la vie quotidienne. Il y a juste un danger dans les rassemblements coptes, notamment au sein des églises, des lieux de culte, ou comme l'incident d'aujourd'hui, quand il y a des activités en dehors de l'église, des excursions, des visites au monastère, etc. Donc c'est les rassemblements coptes qui sont visés.
C'était le journaliste Chérif Albert, joint au Caire. Environ 300 personnes ont perdu la vie dans la violence armée en Centrafrique. Quelques 100 000 ont été déplacées au cours des deux dernières semaines, selon l'ONU et le gouvernement. Il s'agit du plus important déplacement de population depuis la guerre civile en 2013. Les combats ont frappé les villes de Bria, Bangassou et Alinda, où opèrent les milices anti-Balaka ou ex-Seleka. Nathalie Barge a joint le député de Bangassou, Serge Senga-Benga.
À Bangassou, les communautés musulmanes ont été obligées de se réfugier d'abord à la mosquée, puis aujourd'hui au niveau du petit séminaire de l'église catholique. Et il y a aussi une bonne partie de la communauté chrétienne qui est réfugiée également à l'église au niveau de la cathédrale. On a rencontré les membres de différentes communautés, l'évêque de Bangassou, Mgr Aguéré, les responsables des organisations humanitaires là-bas. Et aujourd'hui, l'urgence est véritablement de venir en aide à toutes les populations déplacées qui sont sur les sites, qui sont aussi au niveau de l'hôpital régional de Bangassou.
Combien de personnes ont été tuées et combien ont été déplacées ces deux dernières semaines ?
Déplacées sur le site sont estimés à plus de 4000, mais il faut dire que c'est fluctuant, parce qu'il y a des gens qui fuient, qui arrivent, qui repartent, qui essaient de traverser. Il y en a beaucoup qui ont traversé le fleuve. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 150 tués, d'autant plus qu'au moment où je vous parle, hier encore, il y a eu des tués, il y a eu des combats qui opposaient les forces des Nations Unies et les militants autour qui s'autodésignent autour des forces. Je vous parle de Bangassou, je vous dis ce que la communauté musulmane a vécu, mais quand vous allez à Bria, quand vous allez à Alindao, quand vous allez à Mobaï ou dans les environs de Mobaï, ce sont les chrétiens qui sont aujourd'hui massacrés par l'UPC, Dali Daras. Effectivement, par exemple à Bria, le quartier chrétien lui a été brûlé parce que la branche Séléka avait décidé de venger les musulmans du Mbomou.
Mais n'y a-t-il pas un programme de désarmement et de démobilisation en Centrafrique et pourquoi ces milices ne prennent pas part à ce programme?
Le gouvernement, effectivement, a lancé ce programme de démobilisation, de désarmement, réinsertion et rapatriement. Malheureusement, les différents groupes armés, comment dire, ils ont généralement un double langage, c'est-à-dire que ils viennent au niveau de Bangui dire au gouvernement qu'ils sont partie prenante à ce programme et en réalité, sur le terrain, ils continuent à renforcer leur position pour continuer à profiter des richesses du pays. Parce que quand vous remarquez, généralement, ces groupes sont installés dans les zones diamantifères où il y a de l'or, du café, du poivre, dans les zones où ils peuvent profiter du bétail, enfin bref. Vous savez, on est dans un pays qui a énormément de richesses, qui aujourd'hui, avec ce problème de l'embargo sur les armes, n'a pas une armée qui a des armes. C'est un appel d'air pour tous les prédateurs du monde entier, à mon sens, hein, qui viennent là et qui utilisent les dysfonctionnements qu'ils peuvent utiliser pour manipuler les populations qui se battent et pendant ce temps, eux, ils s'enrichissent.
C'était Serge Singa Benga, député de Bangassou en Centrafrique.
La voix de l'Amérique, Bangui 101.7 FM.
Au Sénégal, les bâtiments vieillissants font des victimes. 225 effondrements, 13 morts en une année, près de 350 bâtiments qui menacent de s'effondrer. Les statistiques de la direction de la protection civile montrent que plusieurs bâtisses représentent de véritables dangers pour la population. Les principales causes sont le manque de respect des normes de construction et de sécurité, la mauvaise qualité des matériaux, la vieillesse des bâtiments. Reportage à Dakar de Seydina Abagay.
Deux bâtiments délabrés qui se font face ornent le décor de la rue 33, angle 18 du populaire quartier de la Médina. Les pans fissurés des murs et les fers rouillés qui débordent du balcon marquent leur vétusté. Si l'un des bâtiments a fini par être déserté par tous ses occupants, l'autre est toujours en location. Les habitants ne semblent pas vraiment conscients du danger. Mustapha Gueye, un locataire de la maison, affirme ne pas trop s'inquiéter.
J'habite dans cette maison depuis 20 ans et j'ai assisté à plusieurs effondrements partiels de ce bâtiment. Ils ont rajouté au deuxième étage alors que la dalle du premier niveau ne tenait plus. C'est ce qui a mis le bâtiment dans un piteux état et rendu les effondrements fréquents.
Les bailleurs sont indexés à cause de leur cupidité et de leur recherche effrénée du profit. Ils sont en plus accusés de ne pas respecter les droits des locataires. Parfois aussi, leurs problèmes personnels se transposent sur la vie de leurs clients. Fatou Ndiaye apporte son témoignage.
Les héritiers de la maison n'acceptent toujours pas de réfectionner la bâtisse. Depuis le décès de leur père, ils prétextent toujours un problème d'héritage. Ils ont juste refait l'intérieur de deux chambres puis ont arrêté les travaux. En plus, ils ont procédé à une augmentation du loyer malgré l'état de délabrement très avancé.
Ousmane Fall, riverain du quartier, dit toute son inquiétude quant aux risques qui peuvent s'abattre sur les riverains et les habitants.
C'est un danger permanent, le Nudeuk, parce que même les habitants, certains qui sont en problème.
On côtoie le danger en permanence. Même les habitants de l'immeuble rencontrent d'énormes difficultés avec certaines parties de la dalle qui tombent souvent sur eux. Par contre, les vendeurs qui sont devant le bâtiment ne se soucient pas du tout du danger alors que le balcon peut s'effondrer à tout moment.
Mais vraiment, bon, vous pouvez conscientiser le bâtiment vraiment.
La capitale sénégalaise a une bonne place sur la carte des bâtiments en ruine. L'état de délabrement très avancé des bâtisses alerte sur les dangers imminents qui guettent les populations. Malgré les efforts des autorités étatiques et la vigilance de la direction de la protection civile, les problèmes sont légion. À l'approche de l'hivernage, habitants et riverains de ces vieilles bâtisses s'inquiètent du danger qui les guette. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Depuis le 1er mai, les couples burundais ne cessent de parler du discours du président qui exhorte les partisans de l'union libre et du concubinage à légaliser leur situation. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour se marier. Alain Diomade Zemimana, porte-parole adjoint du président Kourounziza, a expliqué ce projet à Eki Abadou.
Ces mariages constituent indirectement un problème d'insécurité, étant donné que le mari qui ne reconnaît pas la femme, des fois ne reconnaît pas les enfants, et c'est-à-dire que ces enfants ont des difficultés d'accéder à l'école et même des soins de santé, parce que s'il y a par exemple de la politique de gratuité des enfants, gratuité des soins de santé, je veux dire, vous voyez qu'il y a par exemple des documents que l'on demande, la plupart des fois ces enfants n'ont pas de certificat de naissance et des cartes d'identité sont difficiles à obtenir. Et ça devient un problème.
Donc pour vous, vous pensez que cette mesure, si elle devait venir à être effective, va permettre de protéger les enfants?
Oui, naturellement. Naturellement. Vous avez par exemple qu'il y a un problème d'hérité, par exemple, d'un terrain, d'une parcelle ou de propriété qui appartiennent aux parents après par exemple, leur mort. Et à un certain moment, si vous êtes le résultat d'un mariage illégal, il sera difficile de pouvoir réclamer quelque chose.
Mais en même temps, on parle de moralisation de la société.
Ok, la moralisation de la société, c'est prendre conscience de ce qu'être un citoyen burundais devrait être, ce que l'amour de la patrie devrait être. Parce que dans notre histoire, dans l'histoire du Burundi, il s'est fait que des gens au XXIe siècle commence à oublier les mœurs, la culture du Burundi. Et à un certain moment, il faut n'importe quoi.
L'administration met des pressions à ces couples pour se légaliser d'ici le 31 décembre. Est-ce une volonté du gouvernement que l'administration mette la pression sur ces couples?
Ce n'est pas de la pression parce qu'il y a une éducation qui est claire. On leur donne l'avantage d'être dans la légalité. Et si c'est possible, parce que je ne crois pas que ce soit vraiment un nombre très large de ces couples. Et si ça pouvait être régularisé le plus tôt possible, ce serait une bonne chose.
C'était Alain Diomede Zeyimana, porte-parole adjoint du président burundais.
Combinación.
C'est sur ces notes de salsa qu'on va se quitter. À la mise en onde, il y avait donc Georges Léonard Sagno, à la console Souleymane Tarawolé, présentation Abdourahmane Dia, une pensée pieuse à notre confrère de RFI, Karim Fall. Et puis ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre page internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.